pas la parole?
Oui.
Donc, prenons nos Bibles ce matin. On va faire notre déclaration de foi qu'on aime faire ici à la vie comblée. Et si vous n'avez pas une Bible avec vous, je vous invite à prendre la feuille avec les versets qui sont écrits là-dessus. Et on va dire ceci, parce que ce qu'on dit avec notre bouche et ce qu'on croit dans notre cœur s'accomplit. C'est un principe biblique. On peut relâcher la puissance de Dieu et déclencher la puissance de Dieu dans notre vie par notre confession de foi. Amen. C'est pas juste une affaire de répéter des paroles, mais c'est une question de croire qu'est-ce qu'on dit est vrai. Amen. Quand on dit la même chose que Dieu dit, il y a une puissance qui est relâchée. Amen. Quand nos paroles sont parallèles avec la parole de Dieu. On peut prendre deux fils électriques, tu sais, et s'il y a du courant juste dans un fil, et c'est un fait qu'on peut prendre un autre fil qui n'a pas de courant, mais plus on l'approche en parallèle à l'autre où il y a du courant qui passe, plus on l'approche, au moment donné, le courant qui est dans le fil numéro un va sauter et va commencer à couler dans l'autre fil. Amen?
Amen.
Parce que les deux sont parallèles. Et la puissance qui est dans un fil ici va sauter et continuer dans l'autre fil. C'est la même chose avec vos paroles. Plus vos paroles et plus votre cœur est approché de Dieu, plus vous dites la même chose que Dieu dit, plus vos paroles vont avoir une puissance. La puissance qui est dans la parole va infiltrer vos paroles et vous allez voir des résultats. Amen. Donc tout le monde, on va dire ceci, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. C'est Dieu qui me parle. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Et je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je serai jamais plus pareil. Mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'est-ce pas bon? Alléluia. Est-ce que vous êtes bien dans votre peau ce matin? Alléluia. J'espère que oui, vous serez encore mieux dans quelques minutes parce qu'on va manger la parole de Dieu. On va déguster un bon repas spirituel ensemble. Et est-ce qu'il y a des gens qui aiment la haute gastronomie, hein? Donc, c'est ça qu'on veut ce matin. Mais spirituellement parlant, on veut vraiment voir les choses dont nous avons besoin. Comment on peut être bien dans notre peau? On voit que dans le monde aujourd'hui, on utilise cette expression souvent. On voit une personne qui a l'air d'être heureux ou béni ou prospère. On dit, ah, oh, le gars, il est bien dans sa peau, n'est-ce pas? Et on voit souvent que il y a beaucoup de jeunes dans notre entourage qui sont pas bien dans leur peau. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Mais malheureusement, même dans les églises, on peut regarder autour de nous et on voit dans certaines assemblées et même des fois dans notre église que c'est pas tout le monde qui est bien dans sa peau. On voit qu'il y a des personnes qui vivent l'angoisse ou qui vivent les choses difficiles et ils ont l'air vraiment bouleversés ou bousculés dans leur vie. Et on sait qu'on passe tous par des moments difficiles. On passe tous par des moments où notre foi est éprouvée et où on a des défis. Ça, c'est normal. Jésus a dit que dans ce monde, vous aurez la tribulation. Mais il a dit aussi, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde.
Amen.
Jésus a dit, ma joie, je vais vous laisser. Et il a dit que le monde ne pourrait pas nous enlever notre joie. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il faut trouver l'équilibre. On ne veut pas être des personnes qui ne sont pas authentiques, qui vont juste dire toujours, en tout temps, que ça va bien, ça va bien, ça va bien, même si ça ne va pas bien. Mais en même temps, on ne veut pas être des personnes qui vont tomber dans l'erreur de se laisser contrôler ou dominer par les émotions ou par les événements de la vie ou de notre environnement. Amen. On a besoin d'être un thermostat et non pas un thermomètre dans la vie. Un thermomètre va nous dire c'est quoi la température de la pièce. OK? Un thermomètre va tout simplement, s'il fait moins 20, on regarde et le thermomètre va dire il fait moins 20. Mais ça ne change rien. tout ce que le thermomètre va faire, c'est de refléter la réalité de l'environnement. Mais en thermostat, par exemple, a notre fonction, n'est-ce pas? En thermostat, même s'il fait moins 20 dehors, on peut aller au thermostat et on peut le mettre à plus 20. Amen? Et on va changer notre environnement. On va dire, à partir de maintenant, dans cette pièce, dans cette salle, il va faire plus 20, même s'il fait moins 20 dehors. Amen? Et savez-vous que spirituellement parlant, vous pouvez vivre comme ça. Vous pouvez être en thermostat au lieu d'être en thermomètre. Comme ça, même si dans votre vie naturelle, tout va mal, tout le monde dans votre entourage est en train de vous critiquer, ou ça va mal au travail, ou vous avez peut-être eux des mauvaises nouvelles à propos de vos finances, ou quoi que ce soit. Quand quelqu'un vous pose la question « Comment ça va? », vous pouvez dire « Mais tu sais, il fait pas mal froid dehors. » C'est-à-dire, on a pas mal des épreuves, mais plus grand celui qui est dans moi que celui qui est dans ce monde. Et je suis plus que vainqueur. Amen? Je suis plus que vainqueur. Quand les symptômes de la maladie viennent contre vous, vous pouvez dire « Hey, je me suis fait vraiment attaquer, mais par les mains précieuses de Jésus, j'ai été guéri. » Ça, c'est un thermostat. On ne nie pas la réalité que ça va... qui fait froid dehors, ou que ça va mal dans certains domaines de notre vie, on va pas nier l'existence du géant. David n'a pas fait face à Goliath avec ses yeux fermés, est-ce que vous êtes d'accord? Il n'a pas dit, oh, il n'y a pas de géant devant moi, il n'y a pas de géant devant moi. Il a tout simplement dit, que je viens pas contre toi avec un javelot, avec une lance, mais au nom de Dieu de l'armée de l'Éternel. Laisse-moi vous dire, il n'a pas nié l'existence du problème. Et c'est la même chose pour nous. Si on va bien dans sa peau, il faut créer notre propre atmosphère. Il faut que nous prenions le contrôle de notre environnement intérieur. Même si dehors, il fait froid, et c'est désagréable. En dedans, dans le vrai moi, dans mon être, dans cet domaine humain où je suis vraiment en charge, j'ai le potentiel, la capacité et même la responsabilité de contrôler mon environnement et de déterminer qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire. Il y avait un grand homme de Dieu qui s'appelait Smith Wigglesworth, que lui, dans son ministère, il a eu des miracles par des milliers à travers des années. Autour de 30 personnes ressuscitées d'entre les morts sur son ministère. Mais vous voyez, c'était un homme qui a appris comment être bien dans sa peau, comment vivre comme un homme spirituel. Et les gens posaient la question souvent, comment est-ce que tu files aujourd'hui? Ou comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Et lui, il a dit, moi, je ne me pose jamais la question, comment est-ce que je me sens? Je dis à moi-même, comment je vais me sentir? Et il a toujours dit, ma première responsabilité en me réveillant et en se levant du matin, je me rends heureux dans le Seigneur. Il n'a pas dit, bon, je vais checker le thermomètre émotionnel et voir comment je me sens aujourd'hui. Il a dit, je vais régler le thermostat et je vais me rendre heureux dans le Seigneur. Je vais me réjouir dans le Seigneur parce que des fois, ça me tente, des fois, ça ne me tente pas. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Je ne veux pas précipiter les choses. Mais en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24, nous avons notre texte clé pour cette série, qui dit que Dieu, source de paix, source de shalom, on pourrait dire. On sait que ce verset est écrit en grec, ce n'est pas le mot shalom, mais Paul était un juif, un hébreu des hébreux, n'est-ce pas? Et quand l'apôtre Paul parlait de Dieu de paix, il parlait de Dieu de shalom. Que Dieu, source de paix, source de shalom, le Dieu qui fait en sorte qu'il n'y a rien qui est brisé, qu'il n'y a rien qui manque dans votre vie, fasse que vous soyez totalement à lui. Qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Tout le monde dit l'esprit, l'âme et le corps. On a dit la semaine prochaine, on a dit la semaine passée, que nous sommes les êtres sur trois dimensions. Nous sommes les personnes créées à l'image de Dieu. Il y a un seul Dieu, mais Dieu se manifeste en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, je suis un homme, mais je suis un esprit. Je possède une âme et je vis dans un corps physique. Le vrai moi, c'est mon esprit. C'est mon homme intérieur. Je possède une âme qui est ma volonté, mon intelligence et le siège de mes émotions. Mais je vis dans un corps physique. C'est vraiment mon habit terrestre. C'est mon corps physique qui me donne le droit de marcher sur la terre et de vivre sur la terre. Une fois mort, j'aurai plus besoin de ce corps terrestre. J'aurai un corps spirituel et glorifié. Amen. Mais ici, la parole de Dieu dit que le Seigneur veut que notre esprit, notre âme et notre corps soient gardés irréprochables pour le jour où viendra le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que c'est pas assez pour moi d'avoir mon esprit qui est en règle avec Dieu. Il faut que mon âme, c'est-à-dire ma volonté, mon intelligence et mes émotions soient aussi irréprochable. Et il faut que mon corps physique, ce que je fais avec ce temple du Saint-Esprit, il faut que mon corps soit sanctifié ou irréprochable, préservé pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que le corps entier, il faut que l'âme entière, il faut que mon esprit entier soit préservé pour le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui est vraiment le sujet de notre série. Et je crois de tout mon cœur qu'on a besoin de saisir ces messages plus que jamais auparavant. Parce qu'on va vivre des moments dans les jours à venir où votre corps va être peut-être attaqué. Ou même dans votre âme, vous aurez l'occasion de vous égarer des choses de l'esprit. Et le Seigneur veut que son Église soit une Église forte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une Église glorieuse. Une Église où chaque membre est sanctifié, mis à part pour la gloire de Dieu, esprit, âme et corps. Amen? Donc, pour arriver à cela, je crois qu'il est important que nous comprenions que dans le Nouveau Testament, et aujourd'hui ça va être plutôt un enseignement ce matin, mais ça va être très important, il faut que vous saisissiez ces choses dans l'esprit. Mais on voit que dans le Nouveau Testament, la Bible parle de trois genres d'hommes. Et quand on dit homme, on ne parle pas d'un homme masculin, on parle juste en général d'une personne, un être humain. Donc quand on dit homme, on parle aussi des femmes, ok mesdames, donc on n'est pas sexiste ici. Donc, mais la Bible quand même, dans le Nouveau Testament, nous parle de trois genres d'hommes, trois catégories de personnes. Et il se peut que ce matin, et c'est en fait fort probable que ce matin, on a au moins une personne de chaque un de ces trois groupes représentés ici ce matin. Et on va voir qu'est-ce que la Bible dit à propos de ces trois hommes. Et vous allez pouvoir vous examiner vous-même et sonder votre cœur et vraiment poser des questions dans votre esprit. Et vous allez voir où vous vous trouvez dans cette histoire. Vous allez voir quel genre d'homme vous êtes. Amen. Donc, et c'est important parce que il y a un de ces hommes qui est destiné pour le succès et la victoire. Et il y a deux autres de ces hommes qui sont destinés pour l'échec et la frustration et la déception. Il y a même un de ces hommes qui est capable de vous tuer. Donc, c'est important que vous vous trouviez dans le bon groupe de personnes, n'est-ce pas? Il est très important. Donc, le premier groupe d'hommes qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'homme naturel, ou même quelques traductions disent, c'est l'homme animal. Tout le monde dit l'homme naturel. Et pour voir cela, on va lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Est-ce que tout le monde est là? 1 Corinthiens 2, 9, qui dit, « Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » J'ai entendu tellement de personnes citer ce verset dans le mauvais sens. Ils vont citer ce verset, ils vont dire, tu vois, il n'y a aucun moyen pour nous de comprendre ou savoir les choses que Dieu a préparées pour nous. Parce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Mais quand il dit cela, il parle de l'œil naturel et de l'oreille naturelle. Parce que regarde bien, en verset 10, que Dieu nous les a révélés par l'Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose que Dieu va nous montrer, mais en réalité, dans l'Esprit, le Seigneur a déjà révélé à chaque enfant de Dieu les choses que Dieu a préparées pour nous. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Wow! Je vous encourage à méditer ces versets cette semaine et vous allez voir beaucoup de lumière. Verset 13 dit, « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Verset 14, « Mais l'homme animal, ça c'est le premier homme, première catégorie d'homme, c'est l'homme animal ou l'homme naturel. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc on voit que cet homme qui est naturel ou cet homme qui est animal, il est dans l'impossibilité de recevoir les choses de l'Esprit. Pourquoi? Parce que, comme on va voir, l'homme naturel ou l'homme animal, il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. On continue, et c'est, je vais juste donner, dans vos notes, j'ai marqué la parole vivant, une autre façon que c'est traduit, c'est que l'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Donc, on voit que l'homme animal ou l'homme naturel, il n'a que ses facultés naturelles. Et s'il n'a que ses facultés naturelles, c'est-à-dire qu'il n'a pas les facultés spirituelles. Quand on parle des choses de l'Esprit de Dieu, il est toujours un esprit. Il est un esprit. Mais son esprit est mort, c'est-à-dire, c'est, quand on dit qu'il est mort spirituellement, on ne veut pas dire qu'il n'existe pas spirituellement ou qu'il n'est pas un esprit, mais son esprit est séparé d'avec Dieu. Son esprit n'est plus en contact avec l'Esprit de Dieu. Il est mort et il est dans l'impossibilité de recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Et pour lui, les choses de l'Esprit sont une pure folie. On parle des choses spirituelles que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et pour les gens de naturel, c'est fou. Mettre la main sur le front d'un mari pour qu'il soit guéri, c'est fou, n'est-ce pas? Mais quand on comprend que le monde spirituel est encore plus réel que le monde naturel et que tout ce qui est visible n'a pas été fait avec les choses visibles, mais vraiment, les choses visibles sont le résultat du monde invisible. Dieu a créé le monde avec sa parole invisible. Et tout ce que nous voyons, tout ce qu'on peut toucher, goûter, entendre, voir, toutes les choses qu'on peut expérimenter avec nos cinq sens humains et naturels sont le résultat et le fruit de quelque chose qui a commencé dans l'esprit. Amen. Mais pour un homme naturel, c'est la pure folie. Parce qu'un homme naturel, il n'a que ses facultés naturelles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lui qui manque. Il y a un élément manquant dans sa vie. OK? C'est ça que je veux souligner. En fait, c'est intéressant parce que la Bible Jérusalem dit que c'est l'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il dit psychique? Parce que le mot naturel ou animal, en grec, c'est le mot psychikos. Et c'est de là on a le mot psyché, n'est-ce pas? On parle de cela, n'est-ce pas? En fait, ça parle d'une âme. ça part de la domaine, de la dimension de l'être humain qui est le siège des émotions, c'est l'âme. Et c'est intéressant, parce que ce même mot est utilisé en Jude 1, 19, et c'est marqué, ce sont ceux qui provoquent des divisions, les hommes sensuels. Le mot sensuel, c'est le même mot qui est traduit animal, en Corinthiens. Mais qu'est-ce qu'il dit à propos de ces hommes animaux n'ayant pas l'esprit, un élément manquant? Ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Et puisque l'esprit de Dieu n'est pas en eux, leur esprit humain est mort, séparé d'avec Dieu. Il y a un élément. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que un homme, un être humain, qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, est rendu au même niveau qu'un animal. Pourquoi? Un animal n'a pas d'esprit. Un animal a une âme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment leur chien, leur chat, et leur poisson rouge, etc. Et des gens qui posent la question, est-ce qu'ils vont aller au ciel? J'ai même entendu dernièrement qu'il y a une femme qui a fait des recherches pendant 7 ans du temps pour l'étudier, voir, et elle est convaincue que nos animaux domestiques vont aller au ciel avec nous. Moi, je ne suis pas convaincu. Mais si c'est vrai, tant mieux. Si c'est pas vrai, tant pis. Mais qu'est-ce que je veux vous montrer, c'est que vous savez qu'un animal est capable d'avoir les émotions. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? On voit quand notre chien est triste. On voit quand il est heureux. On voit quand il a peur. Et on voit quand il a honte. Hein? Il a sorti des choses de la poubelle. Puis on entre dans la pièce et mon chien ici, hein, quand il me voit venant, il a fait une gaffe, c'est comme ouf, il a honte. Pourquoi? Parce qu'un animal a une âme, mais un animal n'a pas d'esprit. C'est pourquoi on sait qu'on n'est pas les descendants des singes. Je suis créé à l'image de Dieu et Dieu est un esprit. Je suis un esprit aussi, et mon esprit né de nouveau est maintenant en communion avec Dieu, et j'ai la capacité, j'ai une faculté spirituelle, j'ai un moyen maintenant de recevoir et de percevoir les choses de l'esprit. Parce que je ne suis pas un homme animal ou naturel, je suis un homme né de nouveau. Amen. Donc ça c'est le premier homme. Le premier homme, c'est un homme animal, ou un homme naturel, ou on peut dire c'est un homme qui est vraiment, on peut dire, dominé par son âme naturelle. Et la personne, on entend parler, même j'ai entendu à la radio l'autre jour, quelqu'un qui, il y avait une gymnase ou quelque chose à Montréal, et il disait, on s'occupe du corps et de l'âme. Okay, parce qu'il y avait une place, des salles où ils faisaient du yoga, de la méditation, etc. Donc, venez faire des exercices, mais venez méditer. On ne s'occupe pas juste du corps, mais on s'occupe aussi de votre âme. OK? Et maintenant, il y a des gens qui parlent et qui commencent à voir qu'il y a un autre élément, c'est l'élément de l'esprit. Et ils parlent des choses spirituelles. Mais le problème, c'est qu'ils sont en contact, ils ne sont pas en contact avec les bons esprits. Amen? Et c'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, et ils sont les êtres sensuels, animaux, ou on peut dire psychologiquement motivés et dominés par l'âme. Ils sont dominés par le psyché, au lieu d'être dominés par l'Esprit. Amen. Et ça, c'est dangereux. De un, ces gens sont destinés à l'enfer, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Pas parce qu'ils sont pire que les autres, parce que moi aussi, j'étais autrefois mort dans mes péchés. Autrefois, mon esprit était mort. J'étais un homme animal et naturel. Et vous aussi. Amen. Mais regardons bien. Ça, c'est comparé à un autre homme qui est appelé l'homme spirituel. Tout le monde dit l'homme spirituel. Si on continue en 1 Corinthiens 2, verset 15, c'est marqué... L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire en nous? Nous avons la pensée de Christ. Donc, on voit qu'il y a l'homme naturel qui n'a pas l'esprit, mais aussi on a le contraire qui est l'homme spirituel qui a reçu l'esprit lors de la nouvelle naissance. Son esprit est maintenant régénéré, recréé et en communion avec Dieu. Et son esprit est maintenant infusé de la présence de Dieu et de la nature divine. Amen. Mon esprit humain est né de nouveau. Le vrai moi, parce que je suis en Jésus-Christ, j'ai reçu Jésus dans mon esprit, Jésus habite dans mon cœur, mon cœur et mon esprit est en vie, je suis en communion avec Dieu. Et c'est intéressant si on regarde Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, est dans nos Bibles, dans la version seconde au moins, le mot esprit, c'est E majuscule. Mais vous savez que dans la langue grecque, il n'y a pas de majuscule ni de minuscule. Donc ça, c'est juste une chose, quand ils ont fait la traduction de la Bible du grec en français, ils ont mis en E majuscule. Et moi, personnellement, je ne serai pas dogmatique là-dessus, mais personnellement, je crois que ce verset ne fait pas juste référence de l'Esprit Saint, mais je crois que ce verset fait référence de mon esprit humain qui est régénéré et né de nouveau. C'est-à-dire le fruit de l'Esprit, pas le fruit de l'Esprit Saint seulement, mais parce que l'Esprit Saint habite dans mon esprit humain, maintenant, peut produire un fruit. La même nature qui est la nature de Dieu est maintenant ma nature. Amen. Et on peut dire que le fruit de mon esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, qu'est-ce qu'un homme spirituel a l'air? Qu'est-ce qu'il a l'air? Si je poserais la question à la plupart des gens dans la rue, un homme spirituel, qu'est-ce qu'il a l'air? Il porte une robe. Hein? Il a une Bible qui pèse une tonne. Il est capable de citer à 100 000 de l'heure les versets de la parole de Dieu. Est-ce que c'est ça? Une personne spirituelle? Il est capable de lever les mains dans l'air et de chanter ou de prophétiser. Est-ce que c'est ça, un homme spirituel? Qu'est-ce que c'est un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour, qui est rempli de joie, qui est rempli de paix, qui est rempli de patience, qui est rempli de douceur, qui est rempli de fidélité, qui est capable de se maîtriser. Ça, c'est un homme spirituel. Amen. Parce que vous savez, il y a des personnes religieuses qui, au niveau de l'âme, ont adopté les habitudes et les pratiques religieuses, mais c'est toujours au niveau de psyché, c'est pas spirituel pour eux. Mon grand-père a lu la Bible dans son intégralité, je sais pas combien des fois, mais il n'était même pas né de nouveau. Il la faisait, il était franc-maçon, hein? C'est ça, il était franc-maçon, et puis, pour lui, c'était une chose religieuse à faire. Donc, il a lu, je ne sais pas combien de fois, mais c'était pas avant, je ne sais pas combien d'années plus tard, quand il a eu une rencontre puissante avec le Seigneur Jésus lui-même. Mon grand-père a même eu une vision, c'est rare que ça arrive, mais il a eu une vision de Jésus. Et il s'est repenti. Et je m'en souviens, ma mère un jour était en prière à notre église, juste avant l'assemblée, comme Claude fait avec les gens, ils prient ensemble avant la réunion, elle priait pour son père parce qu'il était tellement contre la parole de Dieu et contre les choses de l'esprit. Il était tellement sous la conviction de l'esprit. On habitait avec lui à l'époque. Et à chaque fois quand il allait, à chaque soir quand ils sont partis pour faire ses activités avec les francs-maçons et tous les autres, il portait sa bouteille de whisky avec lui. Et il était sous la conviction de l'esprit. Il disait les choses méchantes à ma mère. Hein? Vraiment, on vivait avec eux. Mais cette journée-là, il a eu une vision de Jésus. Il s'est repenti presque comme Saul sur la route de Damas, mais peut-être pas aussi dramatique. Mais elle priait, et puis elle priait spécifiquement pour son père, puis elle lève les yeux, et puis elle voyait son père rentrer dans le stationnement de l'église, et Il est venu à l'église, il a donné sa vie au Seigneur, il était rempli du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Le Seigneur a fait quelque chose de grand. Mais vois-tu, si tu poserais la question à mon grand-père avant, il dirait, ah oui, je suis chrétien. Mon père a fondé l'église, telle église sur telle rue ici à Saint-Louis dans 1920 ou une chose de même. Notre nom est sur le mur. Notre nom de famille. Tu comprends? Pour lui, il était chrétien. Il a lu sa Bible plus que beaucoup des gens qui sont nés de nouveau. Est-ce que vous me suivez? Mais ce n'était pas un homme spirituel. Loin de là. Donc, on voit ici qu'un homme spirituel, c'est quelqu'un qui démontre le fruit de l'Esprit. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, dit « Comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Et voici la partie que je veux souligner. « Afin que par elle, afin que par ses promesses, vous deveniez participants de la nature divine. » Tu sais, on dit « Je suis participant de la nature divine. » Amen. « En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Alléluia. Donc encore, nous voyons, un homme spirituel, c'est un homme qui a reçu la nature divine. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et un homme spirituel, c'est un homme qui est au diapason de l'Esprit. Son esprit est en contact et en communion avec l'Esprit de Dieu. Et un homme spirituel se laisse dominer par son esprit humain, qui est infusé de puissance par l'Esprit Saint. Est-ce que vous voyez? En fait, il s'est marqué ici, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, comment est-ce qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu? Notre esprit reçoit le témoignage de l'Esprit Saint et on est conduit par notre homme intérieur. Je ne suis pas conduit par qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, ce que je ressens. Je suis conduit par ce que Dieu dit dans mon cœur, dans mon homme intérieur. Je suis conduit par l'Esprit. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont quoi? Fils de Dieu. Pas enfants, mais fils. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont enfants de Dieu. Mais voyez-vous la différence? Le terme « fils », ça fait référence à un fils adulte. Une personne qui a atteint une certaine maturité dans le Seigneur. Et je veux que vous voyez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas encore en train de vivre comme des fils. Et c'est pourquoi c'est marqué. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous n'êtes pas des esclaves de Dieu, vous êtes les enfants de Dieu, mais les fils de Dieu, l'esprit d'adoption vous avait été confié. Et savez-vous une chose intéressante? Dans le temps des Romains, quand les Romains adoptaient les enfants, on pourrait souvent, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme riche aurait pu avoir 5 enfants et peut-être 5 esclaves. Et s'il voulait, il pourrait dire, bon, maintenant, je veux que cet esclave-là soit adopté dans notre famille. Je veux qu'il ne soit pas un esclave, mais un fils. Et au moment de l'adoption, il était considéré comme un enfant adulte, avec tous les droits d'un fils adulte, automatiquement. C'est-à-dire que le monsieur, il aurait pu avoir 5 enfants, mais qui étaient jeunes, 5 ans, 7 ans, 9 ans, 18 ans, et même si eux autres étaient les héritiers du maître, même s'ils avaient le droit à tout son héritage et à toutes les choses, eux autres, les vrais enfants, avaient besoin d'attendre, d'atteindre un certain âge pour jouir de leur héritage. Tandis que l'enfant où l'esclave adopté était considéré comme un fils mature et adulte, il avait déjà tous les droits et tous les privilèges de la famille, tout l'héritage lui appartenait déjà. Et voyez-vous, qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que dans le Seigneur, on est né de nouveau et on devient les enfants de Dieu. Mais on n'est pas juste né dans sa famille. Selon la parole de Dieu, nous avons reçu un esprit d'adoption. Amen. Je suis né de nouveau. Donc, déjà, légalement, je suis considéré comme un fils adulte dans le corps de Christ. Et j'ai déjà accès à mon héritage. Amen. Mais c'est juste ceux qui savent être conduits par l'Esprit. C'est juste les hommes spirituels qui vont pouvoir vivre comme des enfants adultes. Savez-vous? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Si vous ne savez pas comment être conduit par ton esprit, qui est influencé par le Saint-Esprit, vous allez continuer à vivre comme un enfant ici sur la terre, au lieu de vivre comme un fils adulte. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils adultes de Dieu. Amen. Donc, encore l'importance dans notre heure, dans ce temps stratégique de l'histoire dans l'Église, on a besoin de savoir être conduit par l'Esprit. J'ai besoin de ne pas être dominé ou conduit par mes émotions, conduit par mon âme. Comment est-ce que tu files aujourd'hui? Oh, mais je ne suis pas trop bien. Je ne ressens plus la présence de Dieu comme je le ressentais avant. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Vos émotions, vos feelings ne changent rien à moins que vous vous laissez influencer par vos émotions et vos feelings. Soyez pas le thermomètre, soyez le thermostat. Et un thermostat sait comment être conduit par l'Esprit. OK? L'Esprit Saint rend témoignage à mon esprit. Et il me conduit. Alléluia. Donc, le Seigneur veut qu'on soit les hommes et les femmes matures, les hommes spirituels. Amen. Dans vos notes, j'ai mis que cet homme a reçu la nature divine. Et, sur l'autre page, il est contrôlé par son esprit recréé ou régénéré. Un homme spirituel est contrôlé par son esprit et non pas par ses émotions, et non pas par son corps physique. Et Dieu veut que son Église soit une Église spirituelle, conduite par l'Esprit, remplie de l'Esprit. Amen. Vous êtes adopté, l'Esprit Saint dans votre cœur et qui vous fait crier, « Abba, Père, Papa, je suis ton enfant, mais je suis ton fils adulte. » Amen. Troisième homme qui est mentionné dans les Écritures, c'est l'homme charnel. L'homme charnel. Comment on dit l'homme charnel? Ouh, c'est pas ça qu'on veut. 1 Corinthiens 3, regardons. C'est intéressant, on va voir le contraste ici dans ces versets. 1 Corinthiens 3, verset 1 dit, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Comment on dit les hommes charnels? Et intéressant, n'est-ce pas, la prochaine chose qu'il dit, « comme à des enfants en Christ. » On a dit que les hommes spirituels sont les fils. Ils ne sont pas des enfants, ils sont comme les fils adultes. Tandis que les hommes charnels sont comme des enfants en Jésus-Christ. Ils sont nés de nouveau. Ils ont l'esprit en eux. C'est pas un homme naturel. Ils ont la capacité de recevoir les choses de Dieu parce qu'ils sont nés de nouveau. Mais parce qu'ils ne sont pas encore en train d'être conduits par l'esprit, parce qu'ils restent bébés, parce qu'ils restent enfants, dans le fond, ils agissent comme un homme naturel. On ne voit pas la différence. Intéressant, n'est-ce pas? Il dit, comme à des enfants en Christ, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ne marchez-vous pas comme un homme normal ou naturel? Paul est en train de dire, réveillez-vous, c'est pas normal, vous êtes les enfants de Dieu, mais vous marchez comme les hommes naturels. J'aurais dû être capable de vous adresser comme les hommes spirituels. J'aurais dû être capable de vous donner de la vraie nourriture, mais vous avez toujours besoin d'un biberon. Ça a l'air drôle de voir un homme de 30 ans ou de 40 ans ou 50 ans soit, qui boit dans un biberon. Vous êtes d'accord? Mais je suis sûr que si on pourrait mettre les lunettes spirituelles et on pourrait se regarder dans le miroir, vous serez, on ne devrait pas regarder les autres, hein? On devrait se regarder dans le miroir, vous serez étonné combien d'entre nous on aurait les biberons. Qui sont collés à nos lèvres. Mais Dieu veut qu'on soit les hommes spirituels. On était les hommes naturels. Ceux qui sont nés de nouveau, ils ont la capacité maintenant de développer leur esprit et de devenir un homme, une femme spirituelle. Mais si vous restez enfant, vous allez rester contrôlé et dominé par la chair et non pas par l'esprit. Ce mot chair, c'est le mot... Sarkikos, ou ça vient du mot sarx, et encore nous voyons, ça parle de tout ce qui infecte notre corps, le péché qui a infecté notre corps physique, les impulses, les désirs de notre, qui sont en train d'agir dans nos membres et qui luttent contre les désirs de notre esprit. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous êtes né de nouveau, votre esprit fut régénéré, mais votre corps n'était pas né de nouveau, et votre corps est toujours infecté par le péché. Et votre corps a toujours le désir de faire les choses qui sont contraires au désir de l'esprit, votre esprit. Amen? C'est pas moi qui l'invente, on a juste besoin de regarder Galates chapitre 5. Alléluia! Galates chapitre 5, verset 19, on a déjà vu que l'homme spirituel, qui a le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, toutes les choses, les 9 fruits de l'esprit qu'on a mentionnés. Mais en Galates 5, 19, il y a plus que 9 choses qu'ils ont mentionnées. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, c'est vraiment les péchés sexuels, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent, et on sait que ça parle de ceux qui commettent sur une base régulière et volontaire, telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est pas mal sérieux, vous êtes d'accord? Donc là, on voit que l'apôtre Paul, il s'adresse pas aux hommes naturels, il s'adresse pas aux hommes animaux, il s'adresse aux chrétiens charnels. Il dit, vous devrez être des hommes matures, dans cet stade de votre développement chrétien, vous aurez dû être déjà appelés et considérés les hommes spirituels, mais je ne pouvais pas vous adresser comme les hommes spirituels, mais comme des enfants en Christ, comme les hommes charnels. Parce que vous n'êtes pas conduit par l'esprit, vous n'êtes pas dominé par votre esprit, vous êtes dominé par votre chair. C'est dangereux, n'est-ce pas? Wow! C'est comme Paul a dit dans le livre aux Romains, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Tout le monde dit l'homme intérieur. « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Tout le monde dit « dans mes membres. » On a deux lois, la loi de l'esprit de vie de Jésus qui agit dans notre homme intérieur. Et on a la loi du péché et du mort qui agit dans nos membres. Il y a une lutte, une bataille, un combat entre les deux. La chair qui veut toujours faire la volonté de la chair et du diable, et l'esprit qui veut toujours faire la volonté de Dieu. Et on va voir, juste dans une minute, on a quelques clés qui peuvent vous aider à arrêter d'être un homme charnel et devenir un homme spirituel. Amen. Moi, je sais c'est quoi d'être un chrétien charnel. C'était exactement ce que j'étais à partir de l'âge de 10 ans, quand j'étais né de nouveau, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais un chrétien charnel. Est-ce que j'aimais Dieu dans mon cœur? Oui. Est-ce que je voulais faire la volonté de Dieu? Oui. Est-ce que je faisais la volonté de Dieu? Non. Et il me regardait. Il n'y a pas grand monde qui savait que j'étais chrétien. M'écouter parler, sacré, et tout le kit, non, personne n'aurait deviné. Mais je m'en souviens des fois quand j'ai essayé même une fois de témoigner quand j'étais ivre. Ça ne marche pas, mes amis. Et je ne suis pas fier de cela. Parce que c'était des années quand même gaspillées. Gloire à Dieu, ça n'a pas duré trop longtemps. Et à l'âge de 16 ans, presque 17, j'étais baptisé du Saint-Esprit. J'ai commencé à changer les choses, d'ajuster le thermostat spirituel de ma vie. Je dis non, jamais plus. Je ne vais jamais plus vivre un jour avec un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Jamais plus. Je vais être un chrétien en feu pour le Seigneur Jésus. Et j'ai monté le chauffage. J'ai pris une décision avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça que je suis là pour vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de rester un chrétien charnel. Quand Paul a dit cela aux Corinthiens, n'oubliez pas que l'église de Corinthe était remplie de chrétiens très zélés. En fait, il disait que vous manquez aucun don. Dans leur église, il y avait des gens qui parlaient en langue, il y avait des gens qui prophétisaient, qui avaient beaucoup des dons de l'esprit à manifestation, les dons de l'esprit, mais pas le fruit de l'esprit. Parce qu'un don, c'est un don, c'est pas basé sur la personne. Comme Alice a dit, quand on impose les mains sur les gens, oui, on est supposé de vivre dans la sainteté, mais des fois, Dieu aime tellement le monde qu'il va prendre le vaisseau qu'il peut trouver. Et il va faire qu'est-ce qu'il peut et qu'est-ce avec. Amen. Et c'est pas pour donner gloire au vaisseau. C'est pour donner gloire à lui. C'est des dons. Et c'est pourquoi les gens font des erreurs. Les erreurs des fois parce qu'ils voient une personne qui a des dons et disent, oh, mais ça doit être un homme spirituel. Pas forcément. Ça se peut que c'est un homme charnel et que par la grâce et la miséricorde de Dieu, les dons de Dieu sont en train d'être manifestés à travers lui. Donc, suivez pas tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, à moins qu'il soit vraiment ancré dans la parole et qu'il manifeste le fruit de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est bien beau, mais le fruit de l'esprit, c'est encore plus important. Amen. Donc, encore, nous voyons que tous ces gens qui parlaient en langue, qui avaient des dons et qui, à l'extérieur, ils avaient l'apparence des personnes spirituelles, ils étaient des hommes charnels. Pourquoi? Il y avait des divisions. Il y a des gens qui disaient, moi je suis de Paul. Et l'autre, non mais moi je suis d'Apollos. Je suis dans le camp ici, vous êtes dans notre camp. Ah. Division, jalousie, dispute, péché sexuel. Ça c'était la réalité de l'église de Corinthe. Un homme qui vivait avec la femme de son père. C'est pas bon ça. Amen. Dieu disait pas, vous n'êtes pas sauvés. Il a dit, vous êtes encore les hommes charnels, les enfants en Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle à la maturité. On ne peut plus vivre comme des enfants. On doit vivre comme des adultes. Est-ce que vous êtes là?
Oui.
Si vous êtes un enfant, on va vous donner un peu de temps. On va vous donner votre biberon. C'est normal. Vous avez besoin du lait. Mais pour vous, pour nous qui sommes chrétiens depuis des années, je pense que c'est temps de libérer la pouponnière spirituelle, donner la place à quelqu'un d'autre. Amen? On voit dans vos notes, j'ai écrit, cet homme est né de nouveau, mais il vit comme un homme naturel. Il est contrôlé, je m'excuse pour la faute de frappe, ça devrait être
en eux accent aigu. Il est contrôlé par son corps qui est infecté par le péché et son âme qui n'est pas renouvelée. Donc, je veux juste que vous voyez une chose. Ça, c'est subtil, mais je vais le dire parce que c'est important. Il y a certaines personnes qui sont charnelles et la manière que la chair se manifeste, c'est vraiment par des péchés, l'impureté, l'impudicité, toutes ces affaires-là. Il y a d'autres personnes qui sont nées de nouveau et qui ont rempli leur âme avec la connaissance de la Bible et ils se sont conformés extérieurement à ce que la Bible nous demande de faire. C'est-à-dire qu'ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne se droguent pas, ils ne sacquent pas. À l'extérieur, ils ont l'air bien correct. Mais c'est tout au niveau de l'âme. Ce n'est pas spirituel. Amen? Et parce que ce n'est pas spirituel, ils sont quand même en train de vivre plutôt comme un homme naturel. Un homme dirigé par l'âme et non pas par l'esprit. C'est pourquoi on a certaines personnes, des chrétiens sincères, qui sont des érudits, qui ont étudié la Bible pendant des années, qui peuvent citer les langues originales et tout. Mais c'est tout au niveau de l'âme. Et quand une vérité spirituelle arrive, c'est comme ils ne savent pas quoi faire avec ça. Quand on voit qu'on doit imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris, ou qu'il faut appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Ça, c'est des vérités spirituelles que certaines personnes qui sont sincères, ils sont quand même en train de vivre comme des personnes dominées par l'âme. Ils vont bloquer. Et ça ouvre la porte même. Il y a une sagesse humaine. Jacques, chapitre 3, qui parle d'une sagesse qui est humaine. Une sagesse qui est juste au niveau de l'âme, qui est diabolique. Il y a même les doctrines des démons qui peuvent entrer à cause de cela. Une personne qui est juste spirituelle, mais au niveau de son âme, mais qui n'est pas vraiment spirituelle dans son cœur, ça c'est aussi dangereux. C'est là où on a des personnes qui sont zélées, des personnes religieuses, qui sont tellement zélées, et tout ce qu'ils disent, « Oh, ils peuvent donner la lettre de la loi, pam, 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 pam. » Mais il n'y a rien dans l'esprit. Amen. C'est juste là, dans l'âme. Et eux autres aussi sont les hommes naturels. C'est pourquoi il y a des dénominations qui vont dire que les miracles ne sont plus pour aujourd'hui. Parler en langue, ce n'est plus pour aujourd'hui. Ce sont des érudits qui ont une connaissance énorme de la Bible et qui sont nés de nouveau. Mais parce qu'ils ont bloqué certaines réalités spirituelles, ils sont en train de vivre comme des hommes naturels. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? L'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel, voici les trois hommes qu'on voit dans le Nouveau Testament. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour devenir un homme spirituel? Trois choses. Je ne vais pas prendre le temps pour l'expliquer, mais dans les semaines à venir. La semaine prochaine, vous ne voulez pas manquer. Parce qu'on va parler, c'est Pâques, on parle de la résurrection de Jésus, et je vais vous montrer de comment la puissance de la résurrection, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, va vivifier votre corps physique, et tous ces désirs de la chair peuvent être contrôlés, domptés, et même tués par la puissance de l'esprit. Vous ne voulez pas manquer ça. Donc, si vous êtes lié par la chair, vous êtes dominé par la chair, vous ne manquez pas la semaine prochaine. Parce que la puissance de la résurrection va faire son œuvre. Amen. Mais trois choses qu'on a besoin de faire pour devenir un homme spirituel. Premièrement, entraînez votre esprit. On peut s'entraîner physiquement, mais on a besoin de s'entraîner spirituellement et marcher selon lui. Selon lui, c'est-à-dire selon votre esprit. Et dans les semaines à venir, je vais vous montrer comment faire une formation spirituelle de votre cœur, votre âme intérieure. Comment faire en sorte que votre esprit est plus fort que votre chair. Amen. Je n'ai pas le temps de tout lire, mais juste là, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je dis donc, marchez selon l'esprit, pas juste le Saint-Esprit, mais marchez selon votre esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Je vais vous montrer comment. Numéro 2, renouvelez votre intelligence avec la parole.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous voulez vraiment être spirituel, il faut renouveler l'intelligence. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Votre âme a besoin d'être sauvée. Votre esprit est déjà sauvé. C'est la parole qui va sauver votre âme. Et quand votre âme est en accord avec votre esprit, votre corps est obligé de suivre. Puis numéro 3, faites mourir les œuvres de la chair et disciplinez votre corps. Ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés à la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Romains 8, 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment par l'esprit faire mourir les œuvres de la chair. Amen. Et on va être une église remplie d'hommes et de femmes spirituelles, n'est-ce pas? Jean-Charles va venir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis par cela ce matin? Amen. Jean-Charles va jouer, mais on peut se lever debout et on va fermer les yeux, on va prier. Alléluia. Merci Père Céleste. Dieu a besoin d'une église spirituelle. Pas selon la définition du monde. Il n'a pas besoin d'une église qui fait semblant ou qui a toute l'apparence d'une église spirituelle, mais il a besoin d'une église qui est véritablement au diapason de l'esprit, qui se laisse guider et dominer par l'esprit, qui marche selon l'esprit et qui n'accomplit plus les désirs de la chair. Mais ce matin, j'aimerais juste savoir, avec tous les yeux fermés, peut-être vous êtes ici, et si vous voyez ces trois catégories d'hommes, l'homme naturel, l'homme spirituel, l'homme charnel, vous vous êtes rendu compte ce matin que dans le fond, si vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes dans la première catégorie, un homme naturel. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Vous êtes un esprit, mais votre esprit, votre cœur est séparé d'avec Dieu. Et vous avez besoin d'être né de nouveau. Vous avez besoin de recevoir la capacité de recevoir les choses de Dieu, d'être en communion avec Dieu. Avec tous les yeux fermés, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, pasteur, je veux aujourd'hui commencer mon cheminement pour devenir un homme spirituel. Et je sais que le premier pas, c'est d'accepter Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour mes péchés, qui est ressuscité d'entre les morts. J'ai besoin de l'inviter dans mon cœur pour devenir un homme né de nouveau, dont mon esprit est en communion avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, oui, j'ai besoin de faire cela, j'ai besoin d'accepter Jésus? Il y a une personne qui a levé la main, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alléluia, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je ne vous demande pas de devenir membre de cette église locale. Nous avons une bonne église ici, mais ce n'est pas notre église qui peut sauver. Il y a beaucoup de bonnes églises. Il y a juste une personne. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. Et si vous avez besoin d'être né de nouveau, c'est par devenir membre d'une église locale qui va donner la nouvelle naissance. La Bible dit tout simplement, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Et quand tu es sauvé, le Saint-Esprit entre dans ton esprit et tu es né de nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui lèverait la main et dit « Oui, j'ai besoin de faire cela. » Quittez pas ce lieu comme un homme naturel aujourd'hui. Quittez pas aujourd'hui en étant un homme naturel. Peut-être il y a quelques-uns ici qui diraient que moi, je sais que je suis né de nouveau, mais je vis comme un homme naturel, je vis comme un homme charnel. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais juste dans votre cœur, là où vous êtes, prenez une décision. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez faire ce qui est nécessaire pour devenir adulte. pour faire mourir les œuvres de la chair, pour renouveler votre intelligence avec la parole et pour entraîner votre esprit humain, pour que vous soyez un homme dominé et contrôlé par l'esprit. Alléluia. Merci, Père Céleste. Au nom de Jésus. Priez avec moi, Père Céleste. Nous t'aimons et nous voulons être une église spirituelle. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où on a laissé la chair nous dominer. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre comme un fils adopté, comme un fils adulte, conduit par l'Esprit, dirigé par l'Esprit, dominé par mon esprit, qui a reçu la nature divine. L'amour de Dieu est dans mon cœur. Mon esprit est un esprit d'amour. Je vais me laisser conduire par mon esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.